En Allemagne, comme partout, on discute beaucoup le scénario futur de la publication scientifique, le rôle des maisons d'édition, des différents médias, du commerce des livres, des auteurs et des bibliothèques. Chacun essaie d'au moins garder son rôle et son importance dans le scénario futur, en espérant en plus de pouvoir même la faire croître aux dépenses de ses concurrents. C'est une sorte d'équilibre entre la crainte et l'espoir. Ce qui nous reste au moins, à nous les bibliothécaires, c'est le patrimoine des générations passées. C'est pour ça que je veux finir mon rapport sur un nouveau projet financé, encore une fois, par la Société allemande pour la promotion de la recherche scientifique, la salle de lecture virtuelle. Pour éviter des problèmes de droits d'auteur, ce sont d'abord des ouvrages scientifiques parus avant 1900 qui seront digitalisés et offerts au public par les réseaux. Comme résultat des projets en cours, il faut retenir que la collaboration interbibliothécaire gagnera d'importance. Ce qui nous manque souvent, c'est la perspective internationale, l'intégration des ressources de nos voisins dans nos propres projets et services. C'est ainsi que je suis très heureux d'avoir eu la possibilité de vous parler un peu de ce qui nous préoccupe dans les bibliothèques allemandes, car le dialogue et l'échange d'informations sont indispensables pour arriver un jour à une collaboration plus intense entre les bibliothèques en Europe au bénéfice de nos lecteurs. Merci beaucoup de votre aimable invitation et de l'attention avec laquelle vous avez suivi mon bref rapport. Merci.
Merci beaucoup d'avoir apporté ce troisième volet à notre triptyque, en quelque sorte. Peut-être demanderais-je à Jacqueline Sanson peut-être de développer le volet situation de la Bibliothèque nationale de France dans le, à l'intérieur du volet plus général qu'a indiqué Dominique Haro. Pour commencer, peut-être en quelques mots, puis demander à Mme Belaïch de poursuivre.
Je n'ai pas préparé de papier particulier pour cette séance. À la différence de mes collègues, je dois dire, et je leur redis, je me permets François de le dire, combien je suis impressionnée de les avoir entendus, et l'un et l'autre, dans un français absolument impeccable. Et je le dis parce que François étant totalement bilingue, il n'aurait peut-être pas fait cette remarque, mais je crois que j'apprécie, mais je crois que nous apprécions tous et nous vous en remercions. Nous vous en remercions. Je n'ai pas préparé parce que je m'adresse à un public de bibliothécaires qui savent bien où nous en sommes et qui savent que la Bibliothèque nationale de France a ouvert fin décembre de nouvelles salles de lecture. Et je dis que c'est un public de bibliothécaires qui peut le savoir parce que l'expérience du Salon du Livre, là, de ces quelques jours, montre que la communication n'est pas totalement passée et le nombre de personnes qui s'adressaient au stand et qui demandaient où nous en étions et quand nous allions ouvrir montre que nous avons encore beaucoup à faire. Mais vous le savez, donc je ne m'étends pas trop sur l'ouverture du Haut-Jardin qui, pour le début de l'année 97, pour nous est quelque chose évidemment de très important. L'année dernière, à la même époque, la bibliothèque ne pouvait pas parler de la sorte. Donc rapidement, ces 100 places de lecture ont été mises à disposition du public, réparties dans 10 salles. Ces 10 salles correspondent à une organisation en département avec des thèmes très, très, très précis que sont la philosophie, l'histoire, le droit, l'économie, les sciences et techniques, littérature et art, l'audiovisuel aussi et un service de recherche bibliographique. Les collections qui sont proposées sont des collections qui sont loin d'être les objectifs que nous nous étions fixés. C'est une collection de départ qui correspond à peu près à la moitié de la capacité de ce que nous appelons le Haut-Jardin. Donc c'est 180 000 volumes environ sur les 360-370 000 que nous pourrons avoir plus tard. Les services proposés, ce sont à la disposition de ses lecteurs un catalogue totalement informatisé bien sûr et également des CD-ROM, mais des CD-ROM bibliographiques qui correspondent à chaque salle de lecture et qui repose sur un système assez simple de mini-réseau pour chaque salle. Et ce n'est pas le système d'information de la bibliothèque qui, lui, ne sera prêt qu'à l'ouverture du rez-de-jardin. Là, une des nouveautés, ce sont ces places de lecture, ces collections, ces services et surtout les collections dans un premier état, un système audiovisuel très particulier qui est propre à la bibliothèque et qui permet de voir sur le même écran, de voir et d'entendre en même temps aussi bien donc des documents sonores, des multimédias et des images animées. Ces salles de lecture sont ouvertes à un public le plus large possible. La seule condition est d'avoir 18 ans. L'autre condition, c'est de payer un titre d'accès, puisque c'est une bibliothèque payante. Le haut de jardin, il faut le dire, est ouvert largement à tous, mais il est une partie du site de Tolbiac. Il est la partie qu'il était le plus facile d'ouvrir, puisque indépendante du système d'information et indépendante des collections patrimoniales qui, elles, sont encore à Richelieu. Et ces salles de lecture qui constituent le haut de jardin donc sont une partie d'un tout. La deuxième partie devrait ouvrir dans le courant de l'année 98. Il y a trois conditions pour son ouverture. La première, c'est que les collections soient transférées et ce transfert est en train de démarrer, vient de démarrer depuis quelques semaines. La deuxième condition, c'est que le système d'information dont cette fois nous avons absolument besoin pour fonctionner, fonctionne pour tous ces aspects bibliothéconomiques, catalographiques, tout ce que l'on veut. C'est un système intégré dont le noyau dur doit être absolument en fonctionnement pour que le rez-de-jardin soit ouvert. Et la troisième condition, c'est qu'il s'agira d'espace de lecture ouvert à des chercheurs où seront communiquées des collections patrimoniales situées en magasin. Et à la différence des collections en libre accès, ces collections magasins sont des collections qui exigent beaucoup de monde. Et donc, pour ouvrir ces salles de lecture supplémentaires, puisque le tout sera de 3500 places de lecture, pour ouvrir toutes ces places, eh bien, nous avons besoin de personnel supplémentaire. Et au regard de tout ce qui a été dit précédemment sur les aspects budgétaires, c'est un élément non négligeable du dispositif que nous ne mesurons pas encore totalement, puisque donc cette ouverture est prévue en 98 et qu'en 97, nous sommes en train de préparer le budget centré principalement autour du 19e, des textes et des images également. La numérisation est un des aspects que la bibliothèque développe. Chacun sait qu'on a entrepris une campagne énorme et ce protocole, ça n'est pas l'aboutissement parce que nous ne sommes pas encore au bout de cette affaire, mais c'est un point important dans les relations avec les éditeurs. Et le deuxième aspect de ce début d'année, c'est également la mise en place du service de fourniture de documents à distance. Voilà.
Je crois que c'était tout à fait utile, pour moi en tout cas, de faire ce point sur la BNF en début d'année. Je vais peut-être demander à Madame Belaïch de... avec tout ce que nous avons entendu, donc ce très vaste panorama européen, peut-être de renouer les fils et de réagir un peu sur l'ensemble de ce que nous avons entendu, où nous avons évidemment trouvé à la fois beaucoup de choses qui se ressemblaient, je crois que les difficultés budgétaires par exemple, c'est en effet quelque chose qui est tout à fait transnational, le poids du chômage, bon, toutes sortes de choses de ce type. D'autres problèmes spécifiquement bibliothéco-économiques, je pense en particulier à ce qui était souligné aussi bien en Angleterre en France, qu'en Angleterre ou en Allemagne, sur l'utilisation des nouvelles technologies, n'est-ce pas, quel est le rôle des bibliothèques dans l'organisation de l'accès. C'est un des problèmes absolument essentiels. Et puis des débats tout à fait actuels autour des modalités de la fourniture de documents. Un système qui s'appelle Subito, évidemment, rappelle un mot fameux sur tout de suite, n'est-ce pas ? une autre façon de le dire. Enfin, sans aucune malice.
Madame Bélaïch.
Oui, merci beaucoup. Mais effectivement, le travail est très préparé. Moi, ce qui m'a frappée à l'écoute particulièrement attentive et vraiment passionnée de mes deux collègues anglais et allemands, c'est le très grand parallélisme de nos sujets de préoccupation. Donc, je vais dire rapidement, mais je vais commencer par quelque chose, parce que je pense que Mme Sanson a fait exprès de ne pas en parler beaucoup. Et c'est une des petites manies de l'association que nous avions d'ailleurs transformée en un colloque à la Bibliothèque nationale en juin, pendant notre congrès national. C'est le réseau. Parce que pour nous, l'ouverture de la Bibliothèque nationale de France, c'est un grand moment. C'est un moment pour le bâtiment, pour la bibliothéconomie française, pour tout ce que ça apporte, pour la publication très prochaine, large du catalogue général de la Bibliothèque nationale sur CD-ROM, pour tout un tas d'innovations qui nous ont passionnés, pour la consultation des documents audiovisuels dans la salle du Haut-Jardin, etc. Mais pour nous, cette nouvelle Bibliothèque nationale, cette Bibliothèque nationale de France, son rôle fondamental, par rapport aux bibliothèques de province d'ailleurs, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient académiques, comme vous dites, ou universitaires, enfin service commun de documentation des universités, c'est les relations qui doivent exister de plus en plus, parce qu'il nous semble qu'une bibliothèque nationale ou une autre bibliothèque ne peuvent plus rester toutes seules. Obligatoirement, elles ont à tisser des liens, et des liens très serrés, très importants avec l'ensemble des bibliothèques. Alors Monsieur Dupuis-Grenet a parlé tout à l'heure de d'une réunion sur les pôles associés. Je suis désolée de ne pas y être invitée, et à ma connaissance, peu de gens l'y sont. Je crois qu'effectivement, cette réflexion sur les pôles associés des bibliothèques, cette réflexion également qui a été entreprise cette année autour du dépôt légal imprimeur, et à mon avis, pas encore concrétisée de façon suffisante, ce sont pour nous des problèmes importants. Parce qu'effectivement, on sait très bien qu'avec justement toutes les réductions budgétaires, qu'avec toutes les difficultés de place, de localisation, de mètres carrés de surface et de mètres linéaires dans les magasins et dans les salles d'accès libre, il est indispensable de réaliser de plus en plus de synergies, d'éviter des doublonnements. Et le réseau, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Donc c'est pour nous l'un des sujets de préoccupation importants, et je dirais à travers l'ensemble des bibliothèques. C'est un des volets pour nous aussi de la loi sur les bibliothèques qui est en cours d'élaboration, en tout cas nous l'espérons réellement, puisque pour nous cette loi sur les bibliothèques, c'est beaucoup autour de l'organisation d'un réseau de bibliothèques en France et d'un véritable réseau. C'est-à-dire qu'actuellement, le réseau est basé sur des contractualisations que je vais appeler conjoncturelles, et qu'il est important, selon nous, pour un programme général d'information, de stabiliser ces éventuelles contractualisations qui sont parfois à durée très déterminée et pas toujours suffisantes. Donc notre souci, ça a été d'essayer de participer et d'expliquer cette construction de réseau qui nous semble importante, et incluant la Bibliothèque nationale, bien entendu, et l'ensemble des bibliothèques. Bon, je ne vais pas revenir sur les problèmes budgétaires. Nous savons qu'ils sont difficiles. Alors effectivement, eu égard en particulier à l'énorme fréquentation, que ce soit dans les bibliothèques universitaires ou dans les bibliothèques municipales, la fréquentation est en très forte augmentation. Une fréquentation double, c'est-à-dire à la fois pour le prêt à domicile, mais aussi pour la fréquentation de travail sur place. Et je ne sais pas si c'est à cause d'un non-emploi augmentant, ou parce que l'usage des bibliothèques est en train de changer, ou parce que l'image, en tout cas dans les usagers de bibliothèques, change, il y a de plus en plus de demandes de rester travailler en bibliothèque. Et là, nous avons tous, alors autant que nous sommes, je dirais, une très très grosse difficulté. Nous étions hier à la BPI, c'est totalement impressionnant, mais c'est vrai que c'est impressionnant de plus en plus partout, dans toutes les bibliothèques françaises. Donc là, nous avons un vrai souci, qui est évidemment un souci budgétaire. Et pour la première année, pour la première fois cette année, en fait, c'est les statistiques 95 qui viennent d'être publiées par la direction du livre. Pour la première fois, il y a une inversion des courbes dans les bibliothèques municipales et départementales de près. Inversion qui nous semble très grave, justement parce que la fréquentation augmente. Encore plus grave parce que la fréquentation augmente. C'est donc une diminution en francs courants, donc encore plus en francs constants, des budgets d'acquisition des bibliothèques. Et une diminution assez importante du personnel, de la part de personnel qualifié dans les bibliothèques. Donc ça, c'est pour nous un très grand souci. Le souci est double. D'une part, le souci est sur la formation et la qualification des personnels, mais il est aussi sur le fait qu'une fois que des personnels ont été formés dans des instituts, et l'ANSIB a retravaillé sur sa maquette dans l'enseignement, les IUT travaillent sur leur maquette d'enseignement, donc les formateurs tentent de faire des gros efforts pour améliorer la qualité, la mettre au niveau des exigences d'aujourd'hui. Mais il est certain que si les tutelles qui emploient ces personnels n'emploient pas les personnels qualifiés ou en emploient moins, c'est pour nous un vrai souci. Pas seulement un souci économique d'avoir des collègues ou des jeunes collègues qui sont sur le carreau, si je veux dire, c'est-à-dire non employés, mais aussi un souci pour le service rendu au public, puisque ces services, comme vous l'avez dit très bien dans les deux, dans vos deux pays, mais c'est la même chose pour nous, ces services sont de plus en plus exigeants et exigent, et de fait exigent de plus en plus de connaissances, puisque le livre n'est pas totalement en recul, mais il s'y ajoute aussi le service avec les nouvelles technologies, que ce soit des technologies numérisées de type CD-ROM, ou effectivement de plus en plus, d'abord dans les bibliothèques universitaires et peu à peu dans les bibliothèques publiques également, ces accès Internet qui supposent une formation, une assistance utilisateur importante. Donc c'est un des grands soucis que nous avons, mais je vois que malheureusement nous nous retrouvons avec nos collègues européens. Je vais dire qu'un des sujets que Dominique Arrault a passé peut-être un peu rapidement, mais que vous avez évoqué, notre collègue allemand, c'est, et qui nous a beaucoup occupés à la fois au niveau national et évidemment parce que ça se passe au niveau international, c'est toute la problématique juridique autour des droits d'auteur. Nous avons appris cette semaine en France que les éditeurs français souhaitaient introduire et avaient pris position clairement pour un droit de prêt sur les bibliothèques. Ça nous semble un premier pas qui n'est certainement pas un pas à poursuivre, donc nous ne pensons pas que ce soit un gage de développement des bibliothèques. Mais ce qui nous a beaucoup occupés en 1996 et qui est un vrai souci, c'est l'ensemble des dispositions qui sont en cours de discussion, enfin qui ont commencé à être discutées à Genève pendant la modification de la Convention de Berne et qui continuent au niveau européen, sur tous les problèmes d'accès aux documents numérisés. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit notre collègue allemand, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, puisque si nous travaillons de plus en plus souvent en réseau, si nous devons avoir de plus en plus d'informations sous des formes numérisées, il est certain que la transmission de cette information est un problème fondamental. Et si elle est limitée de façon économique trop stricte dans les bibliothèques publiques, on risque effectivement d'avoir des bibliothèques qui sont, alors je vais dire déconnectées pour aller vite, mais qui risquent d'être en retard pour des raisons juridiques et économiques sur la demande et l'exigence qui nous paraît normale, puisque c'est la nouvelle information qui paraît et qui apparaît sur ces réseaux. Il serait dommage que les bibliothèques doivent priver leurs usagers d'une information à jour, exigeante, comme vous l'avez dit, pour cause de limitation d'accès au réseau. Donc ça, c'est pour nous un souci fondamental qu'au sein de l'Association des bibliothécaires français, mais aussi avec d'autres associations, y compris nos collègues de la LA et dans l'IFLA, nous sommes intervenus fortement autour de ces problèmes-là. Je n'y reviens pas. Une des choses qui est peut-être un peu typiquement française, encore que on le traite peut-être pas de la même façon, mais je crois qu'il existe partout, c'est ce que nous appelons rapidement les relations entre les bibliothécaires et leur tutelle. Il nous semble que ces problèmes, cette année, ont pris une importance plus marquée que les années précédentes. Alors, plus marquée dans les bibliothèques dépendantes des collectivités territoriales, donc bibliothèques municipales et départementales de près, à la suite d'élections mi-95, où un certain nombre de changements ont eu lieu dans les municipalités, et qui se sont traduits cette année, beaucoup plus que les mandatures précédentes, par certaines difficultés, ou des difficultés certaines, entre les nouveaux élus et les bibliothécaires. C'est un problème de situation respective, et de rôle respectif, et de mission respective des élus et des bibliothécaires. Il nous semble important de réaffirmer, il nous a semblé important, et nous l'avons continué tout à l'heure, d'où la raison de notre retard, de réaffirmer justement par le professionnalisme des bibliothécaires leur rôle sur la gestion des collections et des établissements. C'est aussi un problème qui ne se pose pas tout à fait de la même façon, mais qui a pu se poser, peut-être que mes collègues d'université en parleront mieux que moi, le rôle des services de documentation dans l'université, des directeurs et des personnels de ces services de documentation par rapport à la présidence de l'université et aux différents intervenants des conseils d'administration des universités. Ça se passe très souvent très bien. Il semble que dans certains cas, alors là, c'est la place des professionnels dans leur service de documentation, mais c'est aussi la place et le rôle et la mission du service de documentation lui-même à l'intérieur de la politique de l'université et donc la définition d'une politique documentaire dans les universités qui est en jeu. Ce sont pour les bibliothécaires des soucis importants. Voilà, je m'arrête là parce que je crois que le reste a été dit. Merci.
Merci beaucoup. Souhaitez-vous dire un mot sur le réseau ?
Non, c'est vrai que je n'ai pas évoqué le réseau parce que ce n'est pas ce qui m'a été demandé. On m'a demandé d'évoquer le Haut-Jardin et donc j'ai parlé du Haut-Jardin. Et sur l'aspect réseau du Haut-Jardin, je peux peut-être ajouter un mot. Le catalogue qui n'est pas pour l'instant accessible sera sur Internet d'ici quelques semaines, enfin, pour ne pas dire quelques jours. Non, je voulais juste reprendre sur la journée des pôles associés. Puisque vous y avez fait allusion, la Bibliothèque nationale de France travaille en partenariat avec un certain nombre d'établissements, tant à Paris que dans la région parisienne et très largement en région. Et la bibliothèque invite ses partenaires pour une journée de travail qui va être une très lourde journée la semaine prochaine. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'invitation massive. Ce sont les bibliothèques partenaires qui sont invitées. Mais si d'aucuns le souhaitaient, je peux peut-être m'arranger avec ceux qui le demanderaient et transmettre leur demande aux directeurs concernés. Voilà.
Je sais bien qu'on est à la fin de la journée, à la fin du salon du livre. Que chacun a parfois fait beaucoup de débats dans la journée, y compris dans cette salle. Mais enfin, puisque bon, le rôle qui m'échoit, c'est un peu de tirer les fils et de les nouer ensemble. Parmi les choses que nous pouvons dégager comme très communs, importants, en dehors même de la conjoncture immédiate des bibliothèques en Europe, il y a une question qui a été soulevée formellement par Dominique Aro, qui me paraît très, très importante, et c'est de l'image des bibliothèques. Puisque nous avons évoqué les difficultés budgétaires, nous avons évoqué le dialogue parfois difficile, parfois plus facile, mais enfin en tout cas le dialogue nécessaire entre les bibliothécaires et des interlocuteurs politiques au sens large, que ce soit dans les municipalités, les collectivités territoriales, les universités ou vis-à-vis des tutelles. Donc, où que nous soyons, l'image projetée des bibliothèques et des bibliothécaires est une question essentielle. Alors, je voudrais qu'on peut-être que dans la fin du débat, on se focalise un petit peu là-dessus. C'est une question que, pour ma part, alors là, j'interviens dans le débat. Évidemment, je veux dire, l'ENSIB ne peut pas ignorer, puisque c'est notre raison même d'être, n'est-ce pas, former des conseillers de bibliothèque. Donc, l'image qu'elles peuvent avoir nous importe beaucoup. Et pour lancer un petit peu la discussion, le nom même de l'ENSIB fait problème. Je le dis avec simplicité. On a choisi, et pour des raisons tout à fait compréhensibles, de mettre en avant dans le nom de l'école qui forme les conservateurs de bibliothèque français, d'abord les sciences de l'information. Enfin, on est les sciences de l'information et les bibliothèques. Voulant signifier par là, il y a un effet d'époque, que un des effets de sens qui ont pu être produits, c'est que les bibliothèques sont finalement une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui serait justement la circulation de l'information, en somme un cas particulier, hein, quelque chose qui n'aurait presque pas spécificité. Enfin, j'exagère évidemment un peu, mais enfin c'est quand même un peu cela qui était posé à travers ce titre. Et je crois que ce n'est pas une question purement nominaliste, hein, parce qu'au fond, que l'école s'appelle d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas très important. Mais c'est une façon de considérer les bibliothèques. C'est-à-dire, est-ce que la bibliothèque, le lieu bibliothèque, pas seulement l'institution, mais le lieu bibliothèque, est quelque chose qui, à l'époque de, alors, tout ce qu'on dit à juste titre, de la société de l'information, de la diffusion de l'information chez soi, a encore une raison d'être? Cela a été évoqué de façon tout à fait concrète par les uns et par les autres. Nous constatons deux mouvements opposés. L'un qui est cette fréquentation accrue du lieu bibliothèque partout, et la constitution et la construction de bibliothèques de plus en plus monumentales. Si nous prenons le cas des bibliothèques nationales dans le monde entier, ce n'est pas du tout un trait purement français, nous voyons que le lieu bibliothèque, c'est un lieu auquel on s'accroche de plus en plus. On va à la bibliothèque, et pour des usages de plus en plus différenciés. Et puis, en même temps, et ça a été dit plusieurs fois, nous observons qu'il y a une redistribution de l'information qui peut être accessible par de tous autres canaux que la bibliothèque elle-même. Alors, cette image de la... Alors, du coup, donc on a cette opposition entre, grosso modo, les stocks et les flux, ou quelque chose comme cela. Et c'est vrai que ça a produit une image brouillée de la bibliothèque et des bibliothécaires. À quoi servent-ils au juste? Peut-être que ça serait intéressant pour Témier de revenir sur cela, et peut-être revenir aussi donc dans le Royaume-Uni ou en Allemagne, pour que peut-être vous nous disiez comment est perçue l'institution bibliothèque. Vous y avez fait un peu allusion à propos du rapport Follett, justement, mais j'aimerais vous revenir sur ce point, dans la prise de décision.
Ça sera moi la première. Alors...
C'est la Saint-Patrick, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure.
Je suis anglaise, je ne suis pas irlandaise. Je crois que, à mon avis, le vocabulaire, ça n'a aucune signification, que ce soit que je travaille dans une bibliothèque, dans un centre de documentation, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que c'est ce qu'on trouve là-bas, à quoi ça sert. Mais ce que vous n'avez pas dit, et ce qui me semble très important, ce qui date depuis toujours, c'est un certain manque de confiance chez nous. Je ne suis que bibliothécaire. Je suis pas enseignant, je suis pas médecin, je ne suis que bibliothécaire. Et c'est un peu de notre faute, parce que là, on risque de perdre tout ce qu'on a. On devient de plus en plus important. Dans un sens, c'est reconnu, mais dans un autre sens, il y a des autres qui courent derrière nous et risquent de prendre tout ce qu'on a comme... tout ce qui est important chez nous, parce que nous n'osons pas dire... Nous sommes bibliothécaires, nous savons quoi faire, nous savons comment trouver ces renseignements, cette information, et on va vous le montrer. Et si on n'arrive pas à devenir de plus en plus sûr de ce qu'on fait, ça sera toujours le drame de est-ce que c'est la bibliothèque, est-ce que c'est la... j'ai traduit en français d'ailleurs, j'ai dit centre de documentation pédagogique. En anglais, vous devez le savoir d'ailleurs, c'est Learning Resources Center. Et chez nous, il y a un débat, on n'ose plus dire « je vais construire une bibliothèque ». Vous avez parlé de bibliothèque en tant que monument, mais on n'ose plus dire ça parce qu'on n'aurait plus les crédits. Mais si on dit « on a l'intention de créer un centre de documentation pédagogique, state of the art », c'est très important que ça soit en anglais « state of the art », à ce moment-là, les crédits arrivent. C'est complètement bête à mon avis, mais c'est...
Si ça marche.
Si ça marche, justement, on est pragmatique. Mais c'est un manque de confiance à mon avis.
Merci de cette recette.
Est-ce que vous souhaitez...
Pardon. Enfin, c'est celui que vous préférez.
C'est peut-être un peu trop. Là, je peux souligner ce que vous avez dit, mais
une réponse simple sur une question si compliquée dans un pays décentralisé comme l'Allemagne. Je ne la trouve pas parce que ça dépend vraiment des personnes, des Länder, des villes chez nous. Et peut-être la Sarre est un peu trop proche de la France parce que chez nous, il y a des politiques qui aiment bien se parer de bibliothèques. Et en Sarre, on peut devenir quelque chose si on arrive à faire croire aux gens politiques qu'ils peuvent se représenter dans une bibliothèque, qu'ils peuvent y faire des expositions, que la presse arrive bien sûr, et qu'il y a des photos qui sont faites. Et surtout la Sarre, qui est un des Landes les plus pauvres en Allemagne, est maintenant persuadée qu'il faut construire deux annexes, une à notre bibliothèque à Saarbrück et l'autre à notre dépendance médicale à Hambourg. Donc malgré qu'il n'y a plus d'argent, on fait des bibliothèques là, parce qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Peut-être le danger, le plus grand danger pour les bibliothécaires, ce sont vraiment les bibliothécaires eux-mêmes. Il faut vraiment avoir le courage de dire que ce sont des institutions dont on a besoin. Je suis dans un groupe de travail qui s'occupe d'une idée d'un ministre à Brandenburg de faire construire une très grande bibliothèque dans une très petite ville qui s'appelle Potsdam, mais que vous connaissez probablement. Et il a eu l'idée de rassembler toutes les bibliothèques universitaires et municipales dans un grand bâtiment. Mais ça ne marche pas parce que l'université est très décentralisée. Et on a cherché un mot pour cette institution et personne ne voulait dire bibliothèque. Et nous avons dit, alors s'il veut vraiment faire ça, il faut absolument qu'il nomme cette institution bibliothèque, pourquoi pas ? Seulement parce qu'il veut aussi montrer d'autres médias, ce n'est pas une raison. D'ailleurs, nous avons une chose assez curieuse en Allemagne, c'est l'élection d'un mot de l'année. Et je crois que c'était en 1995 que multimédia a été élu mot de l'année. Et il faut jouer sur ça, je crois, et dire que les bibliothécaires ont toujours été des spécialistes en multimédia. Et j'ai vu que ça fonctionne. Mais des collègues qui vraiment se concentrent seulement sur leurs livres, pour eux, les temps sont devenus assez durs maintenant. C'est vrai. Mais il y en a de moins en moins. Et en ce qui concerne les noms, ça aussi, là aussi, j'ai nommé quelque chose. Nos écoles de formation bibliothécaire aussi inventent toutes les années de nouveaux diplômes avec de très bonnes formules, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Nous, on a toujours pris des bibliothécaires, tout simplement, et c'était très bien qualifié, je peux dire. Merci.
Oui, donc je crois qu'effectivement, j'ai fait allusion à ce problème d'image parce que c'est aussi un problème de prise de décision et que quand on dialogue avec ceux qui sont effectivement en charge des décisions, on a parfois l'impression un peu surprenante d'abîme d'ignorance ou d'une certaine forme d'incompétence sur ce que sont réellement les bibliothèques aujourd'hui. Et de temps en temps, ça pose aussi le problème de, dissiper des images fausses. Bon, je crois qu'à un moment donné... un de nos collègues a parlé de bibliothèques immatérielles ou virtuelles. Une conversation que j'ai eue il y a peu de temps avec des responsables des bibliothèques de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation nationale, il me faisait également part de ce type de réflexion chez certains universitaires, chez certains décideurs. Pourquoi finalement est-ce qu'on va construire des mètres carrés supplémentaires de bibliothèques universitaires, puisque bon, avec le virtuel, l'électronique, le digital, etc., les réseaux ont... On peut supprimer effectivement ces salles de consultation, de travail, de stockage d'imprimés, et ça produirait évidemment de fantastiques économies. En même temps, on aurait l'air très, très à la mode. Là aussi, les mots à la mode. Donc je crois qu'il y a ce problème d'image, ça implique qu'il y ait effectivement aussi de la part des professionnels eux-mêmes une vraie patience de pédagogie, de compétences pour expliquer ce qui est utile et ce qui doit être fait. Et ça n'est pas forcément toujours facile. Je crois que c'est commun à l'ensemble des pays.
Alors, nous avons encore quelques minutes si les uns ou les autres souhaitaient poser ici, mais puisque vous avez un micro...
Est-ce que le fait qu'on préfère appeler un nouvel établissement centre de ressources documentaires plutôt bibliothèque, c'est pas qu'on voit extrêmement clairement à quoi on s'engage quand on parle d'un centre de ressources documentaires? Est-ce que c'est pas qu'on voit très clairement ses objectifs et que c'est peut-être moins évident pour une bibliothèque? Ils sont peut-être plus mêlés, il y en a peut-être... Un centre de ressources documentaires, on imagine un public et un établissement qui répond à la demande. Plus c'est spécialisé, plus c'est comme ça. Une bibliothèque, il y a des éléments qui ressortent peut-être du scolaire, de la pédagogie, voire de la propagande par moment, etc. Et c'est peut-être un autre type d'engagement. Je ne sais pas, je pose la question.
Madame, prenez le micro, je vous en prie.
Je voudrais aller dans le sens de madame parce que moi je me sens, enfin du moins j'ai voulu être tout à fait bibliothécaire et bien que j'ai une grosse estime pour mes collègues documentalistes, je ne me sens pas du tout documentaliste, dans ce sens que je ne me verrais pas dans une usine ou enfin un grand centre qui me demanderait toute la journée de lui fournir une information objective et la plus complète possible et point final. Moi, dans mon métier, je me sens responsable de la médiation, non seulement du document, mais du texte aussi, du texte littéraire, de la beauté du texte, entre le lecteur, le demandeur et moi-même. Je travaille actuellement à la BPI, où je vois quand je suis en service public, qui est l'occupation que je préfère, toutes sortes de lecteurs d'âges très différents. Et je pense que je ne fais pas mon travail si je ne fais pas cette médiation entre le document et le lecteur. Parce que beaucoup de lecteurs ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi la médiation sensorielle. Par exemple entre un aveugle et un document, entre un sourd et un document, entre une personne âgée et un document. Voilà. Et quand je parlais aussi de la beauté du texte, c'est vrai que j'imaginais beaucoup que j'aurais à faire la médiation entre des lecteurs et l'art du texte, la beauté de la langue. Et quand je peux arriver quelquefois à provoquer un émerveillement, alors là je me sens vraiment bibliothécaire.
Voilà. Merci de cette très belle définition. Monsieur le Vandoren. Vous êtes un tribun.
Oui, je crois que c'est la question de l'image des bibliothèques. Moi, c'est quelque chose. Je travaille en université, donc c'est quelque chose qui m'est. Auquel je tiens et que je crois une question grave. Simplement sur le plan de l'anecdote, les derniers événements qu'il y a eu qui ont concerné les bibliothèques dont la presse a rendu compte, et notamment y compris la presse sérieuse et la presse du soir, quand elle parle des bibliothèques ou quand elle parle des bibliothécaires en termes d'image, elle parle des employés de bibliothèques d'abord, qui est une manière de les désigner qui effectivement, pour reprendre ce que disait notre collègue britannique, n'est pas améliorative, mais qui n'est pas péjorative non plus, mais enfin qui ne replace pas le bibliothécaire à sa juste place et à sa juste fonction dans la société. Qu'ensuite, s'agissant de la France, je crois que c'est très signifiant, on parle d'une employée de bibliothèque, j'en reste là... Pour ceux qui savent ce que c'est que, non pas la guerre des sexes, mais toute la difficulté qu'on a en France, effectivement, à donner leur place à nos collègues, femmes. Donc ça, c'est également grave. C'est également grave comme image. Et qu'ensuite, on a du mal également dans la presse, j'en aurais terminé avec l'anecdote, à ne pas parler des bibliothécaires sans dire qu'ils sont forcément dévoués. Il faut que les employés de bibliothèques dévoués. Vous avez là le syntagme figé de la description ou de l'identité des bibliothèques. Bon, je ferme la parenthèse et l'anecdote. Tout à l'heure, on a parlé en termes de, de comparaison de ce que nous disaient nos collègues étrangers et de ce qui se passe chez nous, d'un parallélisme concernant les moyens. C'est vrai qu'il y a un parallélisme concernant les moyens, mais je crois que moi, quand j'entends des collègues anglais et allemands parler, je suis toujours très content et en même temps je suis très déprimé. Parce que en bibliothèque universitaire en France, il y a également le facteur temps, c'est-à-dire que leur niveau de développement n'est pas comparable au nôtre. Ou plus exactement, notre niveau de développement n'est pas comparable au leur. C'est-à-dire que on rappelle toujours les mêmes ratios, mais je crois qu'ils disent quelque chose. Quand il y a une place pour 5 étudiants environ dans le Royaume-Uni, il y a une place pour 18 étudiants en France, dans les bibliothèques universitaires. Le nombre de prêts, c'est des rapports de 1 à 5, y compris les acquisitions par rapport à l'Allemagne. Des rapports de 1 à 5. On a 2 millions d'étudiants. Je veux dire que là, il y a quelque chose qui fait que, même si dans le débat, par exemple, les universitaires, certains universitaires, mettent en avant la bibliothèque virtuelle, cette avancée, cette idée que la bibliothèque virtuelle pourrait se substituer à la bibliothèque traditionnelle, prend encore plus de poids dans le débat, parce que ça laisse entendre que ça nous permettrait de faire l'économie de l'étape de la construction. C'est-à-dire que, à la limite, on ira encore plus vite que vous, les Anglais et les Allemands, parce que pesamment, lourdement, avec beaucoup de moyens financiers, vous avez construit de grosses bibliothèques. Et bien nous sommes plus malins que vous. Nous faisons l'économie de ces grosses constructions, et d'emblée, nous arrivons à la bibliothèque virtuelle qui va permettre, effectivement, de donner l'accès, de permettre l'accès de l'information pour tous. Et là, il y a quelque chose d'absolument redoutable dans le débat public en France, en tout cas dans les universités, mais je crois que ça concerne également les bibliothèques publiques. Je crois que ça, ce sont des phénomènes qu'on observe et contre lesquels nous, en université, en tout cas, on a beaucoup de mal. Je terminerai sur un point. La collègue britannique se désole qu'on ne parle pas de bibliothèque, mais je crois que dans le terme qu'elle utilise de substitution de la bibliothèque, l'image qu'on leur colle, il y a quand même le terme de learning, il y a quand même le terme de pédagogie. Dans les universités, traditionnellement, la documentation n'est pas pensée par rapport à la pédagogie. Pas encore. Pas encore. C'est-à-dire que la pédagogie se développe d'un côté, la documentation de l'autre. Et il n'y a pas là de lien organique fort dans l'université française entre la pédagogie et la documentation. Alors, c'est un vaste débat pour nous et un vaste programme. Voilà.
Est-ce que vous pourriez